Il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil à tous. Et nous débutons bien entendu par le journal de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Quand rien ne semble pouvoir empêcher l'Amérique de Donald Trump d'isoler un peu plus l'Iran, les compagnies aériennes Air France et British Airways vont fermer le mois prochain leur ligne vers Téhéran où nous retrouverons Siavosh Ghazi en début de journal.
Et puis à Marseille, Jean-Luc Mélenchon appelle les militants de la France insoumise réunis en amphi d'été à ne pas se décourager face au rouleau compresseur des réformes macroniennes.
Des enquêteurs particulièrement prudents après le double meurtre de Trappe revendiqué par Daesh hier. Le parquet antiterroriste ne s'est pas auto-saisi de l'affaire dans ce qui semble bien être un drame familial teinté de troubles psychiatriques chez le tueur. Dans ce journal, nous irons aussi en Polynésie où 50 ans après le premier essai d'une bombe H française, les retombées médicales semblent, cancer et maladies génétiques semblent se transmettre à travers les générations. À croire que rien ni personne ne pourra empêcher Donald Trump d'isoler à nouveau l'Iran. Téhéran est en train de disparaître peu à peu de la carte du transport aérien mondial. Après KLM, hier ce sont les compagnies Air France et British Airways qui ont annoncé la fermeture de leur liaison avec la capitale iranienne dans le courant du mois de septembre. Une conséquence directe et très concrète des sanctions réintroduites unilatéralement par les États-Unis, mais qui obligent les Européens à participer donc à l'isolement iranien. Siavosh Ghazi.
C'est un nouveau coup dur pour le gouvernement iranien. La décision des deux compagnies aériennes intervient après le départ de nombreuses entreprises européennes, notamment le groupe pétrolier français Total ou le constructeur automobile Peugeot du pays. Les deux compagnies françaises et britanniques avaient repris leur vol vers Téhéran après l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. Mais la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire en mai dernier et le retour des sanctions américaines ont poussé les deux compagnies aériennes à cesser leur vol vers Téhéran, qui n'était déjà pas très rentable. L'arrêt des vols des compagnies aériennes occidentales aura un effet direct sur le tourisme en Iran. En effet, après l'accord nucléaire, les touristes occidentaux avaient commencé à revenir en Iran. Les sanctions américaines ont également fait baisser le nombre de touristes iraniens se rendant à l'étranger. En effet, depuis un an, la monnaie iranienne a perdu environ 70% de sa valeur par rapport au dollar et les voyages à l'étranger sont devenus trop chers pour de nombreux Iraniens. De même, cela va affecter des millions d'Iraniens vivant à l'étranger qui avaient l'habitude de se rendre en Iran tous les ans pour visiter leur famille.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour France Culture et j'ajoute que la firme américaine Google, après Facebook et Twitter, a annoncé hier avoir fait fermer 58 comptes liés à l'Iran sur sa filiale YouTube et sur son réseau Google+, de faux utilisateurs qui auraient été utilisés par des médias iraniens pour tenter de faire de la propagande sur la scène politique américaine. Un ultimatum de 24 heures adressé à l'Union européenne, c'est l'Italie qui n'en finit pas de poser ses conditions avant de laisser débarquer les 150 migrants restés bloqués à bord du navire le Diciotti dans le port de Catane en Sicile. Leur séquestration dure depuis plus d'une semaine, les conditions sanitaires sont critiques, mais Rome veut que des pays européens s'engagent à prendre en charge les demandeurs d'asile avant de les laisser débarquer. Une solution doit donc être trouvée avant ce soir. Une réunion d'urgence va se tenir dans la journée à Bruxelles. Un cirque, une farce en Argentine, l'entourage de Cristina Kirchner dénonce des persécutions imposées par la justice à l'ex-présidente de gauche accusée de corruption à très grande échelle. Hier, la justice a fait mener deux perquisitions dans les résidences de Cristina Kirchner à Buenos Aires et en Patagonie.
7h03 sur France Culture, c'est la suite du journal de Camille Magnard. En France, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, fait face à une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris.
Enquête ouverte et qui fait suite aux révélations mercredi du Canard Enchaîné sur ces travaux très importants réalisés au siège parisien de la maison d'édition Actes Sud, dirigée à l'époque par la ministre. Travaux réalisés sans autorisation ni déclaration au fisc. Actes Sud a dit hier sa volonté de régulariser au plus vite la situation qui court pourtant depuis 1997. Nous reviendrons en détail sur ce nouveau scandale qui ébranle le gouvernement dans notre journal de 8h. L'opposition de gauche pendant ce temps fait sa rentrée universitaire ce week-end. Université d'été à Angers pour le Parti communiste, à Strasbourg pour Europe Écologie Les Verts et à La Rochelle, mais en petit comité, pour les socialistes. Et amphi d'été également à Marseille pour la France insoumise, des amphis plutôt bien rempli depuis hier pour le mouvement qui semble désormais mener la fronde anti-Macron à gauche, avec une question tout de même dans tous les esprits: comment croire encore aux mobilisations sociales après une année marquée par l'intransigeance de l'exécutif macronien? C'est un reportage à Marseille de Sophie Delpont.
Pour remobiliser les militants, Manuel Bompard, le directeur des campagnes de la France Insoumise, prend la parole sous le chapiteau au milieu des stands.
Faisons payer Macron pour la réforme de la CSG.
Cette rentrée est aussi l'occasion de faire le bilan des luttes menées et des combats perdus l'année dernière, selon Stéphane, coordinateur d'un groupe d'action à Lille.
Il y a à la fois le pendant négatif, la régression sociale tout azimut de Macron et toute sa clique, et puis de l'autre côté le pendant positif. On a fait la preuve, notamment nos députés, et puis aussi sur le terrain, d'une véritable opposition. En campagne permanente, ça n'a pas arrêté.
Caroline Fiat, députée de la France Insoumise, est très satisfaite de l'affluence de cette deuxième édition des Amphis d'été.
Tu refais le plein d'énergie. On peut à un moment donné se dire on a un rouleau compresseur face à nous, rien ne passe. Et là, voilà, c'est dès qu'on croise des militants, c'est merci de votre travail, merci de ce que vous faites pour pouvoir attaquer une rentrée qui prévoit d'être exténuante.
Car à l'agenda de la rentrée, il y aura notamment la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Corinne est militante à Marseille, elle ne veut pas baisser les bras.
On n'a que cette solution-là. Ou c'est ça, ou c'est l'insurrection, quoi.
Le prochain objectif pour la France insoumise, au-delà des mobilisations sociales, ce sera les élections européennes. Jean-Luc Mélenchon espère en faire un référendum anti-Macron.
Sophie Delpont, retour à présent sur ce drame qui entretient un peu plus le trouble entre drame familial, dérive psychiatrique et meurtrière et passage à l'acte djihadiste. La justice se refuse ce matin encore à trancher après la mort hier de deux femmes à Trappes au sud-ouest de Paris, tuées à l'arme blanche par leur fils et frère qui a ensuite été abattu par des policiers. Ajoutez à cela la revendication immédiate et apparemment très opportuniste de ce geste par le groupe État islamique. Vous obtenez une enquête aussi complexe apparemment que la personnalité de l'auteur des faits, Christine Monclin.
L'homme qui se prénomme Kamel était connu à la fois des services de renseignement pour apologie du terrorisme et des services sociaux de la ville de Trappes pour des contentieux avec sa famille, des problèmes de couple et de dépression. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, juge d'ailleurs que son état psychiatrique l'emporte sur ses engagements idéologiques. Pourtant, dans le même temps, le ministre indique que l'individu était bien fiché au FSPRT, ce fichier créé après les attentats de 2015, ciblé sur 15 000 islamistes radicaux. Cela conforte du coup une autre version des faits, car d'après des témoins, l'homme aurait aussi crié « Allah Akbar » au moment des attaques. Cela n'a pas été confirmé. Et puis certains médias affirment encore qu'il avait été récemment licencié par la RATP pour non-respect de la laïcité. De quoi alimenter rumeurs et confusions. Pour les enquêteurs qui épluchent son agenda et ses contacts, il s'agit de savoir s'il y a ou pas un lien entre ce meurtre familial, cette radicalisation islamiste, la revendication encore non authentifiée de Daesh et tous ces problèmes psychologiques et psychiatriques dont les autorités n'ont pas précisé la nature.
Allez, 7h07, Camille Manière, la suite de votre journal. On va embarquer pour l'archipel de Polynésie où il y a 50 ans, jour pour jour, explosait la première bombache française.
Alors ce n'était pas le premier essai nucléaire tricolore hein, sur l'atoll de Fanga Taufa, mais c'était sans conteste le plus puissant et celui qui a suscité le plus de retombées nucléaires sur les populations polynésiennes qui vivaient là, qui vivent là, devrais-je dire, car 50 ans plus tard, les stigmates de ces radiations subies semblent perdurer chez les descendants des victimes directes, un terrible héritage sur lequel un médecin de l'archipel alerte sans cesse les autorités sanitaires, Jade Péchira.
Ce sont d'abord des observations qui ont mis la puce à l'oreille du docteur Christian Sueur.
Je me suis rendu compte que je recevais à l'hôpital de jour des enfants qui présentaient des troubles envahissants du développement ou alors ils avaient des anomalies morphologiques, les becs de lièvre, les communications intracardiaques, le fait d'avoir des doigts à la main ou aux pieds surnuméraires. Et donc j'ai commencé à m'interroger.
Pendant 5 ans, le médecin va examiner plusieurs centaines d'enfants.
On va faire une consultation dans un atoll, par exemple 500 personnes, 60 enfants, 70 enfants. Et pratiquement dans chacun de ces atolls, on va voir un enfant qui présente une microdélétion avec un trouble neurodéveloppemental. Or ça touche ordinairement un enfant sur 300 000 ou 400 000.
Christian Sueur en est persuadé, ces maladies génétiques sont la conséquence de l'irradiation des grands-parents de ces petits patients 50 ans plus tôt.
Notre hypothèse, c'est que un certain nombre de problèmes génétiques peuvent se transmettre de génération en génération.
Des observations et des hypothèses que le médecin résume dans un rapport qui, au moment de sa sortie au début de l'année, ne reçoit pas spécialement un très bon accueil. Ses méthodes peu orthodoxes, son statut de psychiatre sont notamment attaquées. Qu'importe pour le docteur Sueur, son hypothèse mérite qu'on s'y intéresse.
Je veux savoir, je veux qu'on me réponde. Donc la question, c'est de déclencher des recherches sur ce sujet sensible et qu'il ne soit pas des recherches qui soient uniquement faites par des officines appointées, c'est-à-dire des centres de recherche qui travaillent dans le sens du développement du nucléaire, qu'il soit civil ou militaire.
Selon certaines études menées sur des animaux ou sur des cellules, les mutations radio-induites perdurent et même augmentent au fil du temps jusqu'à la 10e, voire la 20e génération.
Un dossier signé Jade Péchira. Un coup de frais sur la météo de ce vendredi. Les températures sont en baisse ce matin, globalement de 12 à 18 degrés, avec tout de même 20 à 24 sur le quart sud-est, le tout sous un ciel qui se couvre, mais où les éclaircies vont continuer à dominer. Gare aux averses tout de même ce matin sur une diagonale allant du Pays Basque à l'Alsace.